avec Benoît Marchal.
Bienvenue, bienvenue pour le 151e épisode de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue.
Trois segments dans cet épisode, comme d'habitude, et on va s'intéresser à la cellule qui équipe nos boîtiers. Parce que cette cellule, je ne sais pas si vous avez la même expérience que moi, mais je l'ai vue changer. Et je n'ai pas l'impression que tous les documents que je lis reflètent ce changement. Quand je me renseigne sur la mesure de l'exposition, généralement on me parle de gris neutre. Puis on m'explique que l'appareil photo cherche à rendre le monde gris neutre. Et donc que si mon sujet n'est pas gris neutre, eh bien je devais avoir à appliquer un certain nombre de corrections. On me dit par exemple, quand je suis à la plage, le sable réverbère beaucoup de lumière, et donc il faut forcer une légère surexposition pour éviter que le sable ne soit trop terne. Je comprends ce discours, je le comprends très bien parce que je l'ai vécu. Mon premier réflexe, clairement, fonctionnait comme ça. Et il était, je vais dire, assez facile de tromper la cellule. Et donc souvent, il fallait effectivement guider la mesure. Et mon premier réflexe, il a plus de 20 ans. Et comme beaucoup, quand on est arrivé au numérique, je suis passé au réflexe dernier cri, avec la mesure multisegment, la mesure matricielle en fonction des constructeurs. Et ce discours sur le gris, etc., etc., je ne vais pas dire qu'il est faux, je ne vais pas dire qu'il est inintéressant, parce que c'est clairement le discours de base, mais il ne m'a plus l'air d'être totalement en adéquation avec le matériel tel que je l'utilise. Alors j'ai peut-être de la chance, hein, je tombe peut-être sur les sujets ou les conditions d'exposition qui fonctionnent bien, mais je trouve que la cellule qui équipe mon boîtier, elle est bien plus intelligente que simplement essayer d'obtenir ce gris à 18%. Donc j'ai voulu comprendre comment elle fonctionnait, et pour ça je suis allé poser la question au fabricant du boîtier. Donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Delphine Mailleux de Nikon France pour explorer ce sujet, comment un réflexe moderne mesure l'exposition. C'est un regard constructeur, qui est très clairement fier de son matériel. Ce discours optimiste, je ne crois pas qu'il est plus faux que le discours très pessimiste qu'on entend traditionnellement sur le monde à 18% qu'il faut sans cesse corriger. Et donc je trouve intéressant de vous proposer cet contre-éclairage quelque part, parce que la vérité elle est sans doute un petit peu entre les deux. C'est bien entendu intéressant de connaître la méthode traditionnelle, je veux dire, avec le gris 18%, parce que quand l'automatisme fait défaut, ça permet de retomber sur ses pattes. Il est également intéressant de comprendre que les cellules, aujourd'hui, elles vont quand même plus loin que ça. Ces techniques de mesure type matriciel, on les trouve maintenant avec des degrés de sophistication divers chez tous les constructeurs. L'exposition, c'est évidemment un sujet fondamental, donc c'est pas la première fois qu'on le traite dans Déclencheur. Je vous rappelle que pour vérifier l'exposition avec un boîtier numérique, l'outil idéal, c'est l'histogramme, dont nous avions parlé en mai 2006, tout au début de Déclencheur. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'exposition, je vous conseille deux autres épisodes qui viendront en complément de celui-ci. L'exposition créative qui date d'août 2006 et couvre l'apport particulier du diaphragme, de la vitesse et de la sensibilité. Et les paramètres de l'exposition au flash, un épisode qui est sorti la semaine dernière, donc en octobre 2008, et qui analyse les mêmes paramètres, mais quand on travaille au flash. Retenez dès à présent l'adresse du blog, www.déclencheur.com, c'est là que vous pourrez vous abonner. Je le rappelle à chaque fois, mais c'est important, on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement, y compris iTunes, l'email et tous les agrégateurs RSS, ce qui veut dire que vous pouvez par exemple avoir Déclencheur sur la page d'accueil de Google. Sur le blog, vous pouvez également poster un commentaire et retrouver tous les liens de l'épisode. Vous pouvez écouter les épisodes directement sur le blog, mais il est tellement plus facile et agréable de faire comme plus de la moitié d'entre vous, les copier sur un iPod, un baladeur MP3, un téléphone multimédia, même de graver un CD pour les écouter en voiture, en métro, en reportage ou pourquoi pas au bureau. Premier segment donc où je vous présente quelques-uns des nouveaux articles disponibles sur www.déclencheur.com. Le bloc carnet en particulier s'est enrichi de beaucoup de notes et j'en épingle 4. Tout d'abord, votre entrée gratuite au salon de la photo, c'est dans à peu près un mois maintenant. Comme tous les magazines et tous les sites photos, Déclencheur a été contacté pour vous proposer ces invitations. On reviendra d'ailleurs sur le salon prochainement avec un invité. Ensuite, les nouveautés de la suite Adobe CS4 par un journaliste invité, Hervé Bernard. Hervé qui pose un regard très photographique sur les outils de la suite dans son ensemble, donc au-delà de Photoshop. Une note inspirée d'un échange récent, mais à quoi sert donc le bouton AF On sur le boîtier ? Enfin, une note pour partager quelques astuces alors que je m'habitue aux corrections locales dans Lightroom 2. La note s'appelle Lightroom et le portrait. Sur www.déclencheur.com, vous trouvez également le Wiki News. L'actualité de la photo s'est ralentie. C'est logique, on est dans la période après Photokina. Les dernières annonces concernent du plus petit matériel, tel que de nouveaux GPS, une visionneuse, un nouveau livre sur le noir et blanc avec Lightroom et Photoshop. Et je veux attirer votre attention sur deux nouvelles. D'abord, le dernier livre de Michel Lévy, La photo numérique, le guide complet, qui est un de ces livres qui couvre un spectre assez large et donc donne à quelqu'un qui découvre la photo eh bien, un petit peu d'informations sur tous les sujets, à charge pour vous d'aller creuser plus en détail par la suite, notamment en écoutant Déclencheur. Enfin, Hervé Bernard, j'en parlais un instant, a rouvert la souscription pour le livre qu'il s'apprête à sortir sur l'image. Deuxième segment donc sur le fonctionnement de la cellule de votre appareil photo. Alors, on est avec Delphine à la Nikon School. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Raconte-moi Delphine, qu'est-ce que tu fais ici ?
Qu'est-ce que je fais ici ? En fait, je suis chef produit pour Nikon, donc je m'occupe de tous les réflexes entrée de gamme jusqu'au D80. Donc que ce soit leur mise sur le marché, les aspects techniques, la vente des produits, donc de manière un peu plus générale.
Super. Et là, on est là pour parler de la mesure de la lumière, de la mesure de l'exposition. On va pas revenir sur les paramètres de l'exposition, ça, ils ont été couverts dans d'autres épisodes de Déclencheur, mais on va couvrir ce que le boîtier fait autour de la lumière, c'est-à-dire vraiment comment est-ce qu'il mesure les choses. Alors, comment ça se passe ?
Bah, je suis très contente de ce sujet-là, parce que, en fait, moi, la lumière, c'est important. Je pense qu'on l'oublie un peu quand on fait des photos. Y a le sujet. Mais la lumière, elle est tout aussi importante. C'est-à-dire qu'on fait toujours attention à bien cadrer son sujet, on essaye de faire une composition originale, mais parfois on oublie la lumière. Et la lumière, c'est le deuxième élément le plus important. Et la lumière, elle se mesure et elle s'adapte selon ses envies. Et vos appareils vous proposent, en général, trois types de mesures de lumière. Donc on va rentrer un peu dans la technique, après on verra comment on les utilise et dans quelles situations. Mais techniquement, tous vos réflexes vous proposent trois types de mesures de lumière qui sont le spot, le pondéré central et la matricielle.
Matricielle, on l'appelle aussi multisegment.
Multisegment sur certains réflexes. Donc c'est des mots qui peuvent faire peur, on se dit « oh là là, je ne vais pas changer ça, ça a l'air compliqué ». Il faut au contraire s'amuser mais pleinement avec ces trois options qui vont vous ouvrir mais toutes plein de possibilités créatives en fait pour vos images.
Pourquoi c'est important de calculer l'exposition ?
En deux mots. Alors qu'est-ce que c'est une photo bien exposée ? C'est ça la grande question. C'est des noirs noirs, bien profonds, et des blancs qui ne sont pas cramés, donc un jargon un peu photographique. Donc des blancs, vous avez encore un peu de matière dedans, pas un espèce d'éclair blanc où il n'y a rien du tout et qui n'est pas très joli. Donc c'est ça, une photo bien exposée, c'est-à-dire du noir jusqu'au blanc, avec toutes les valeurs à l'intérieur. Voilà, c'est ça une photo bien exposée. Comment il fait l'appareil ? Il va mesurer la lumière qui passe à travers l'objectif, le fameux TTL, through the lens, avec l'accent. Donc en fait, lui, il va essayer de calculer la lumière qui va arriver sur le capteur, la luminance, la lumière qui est réfléchie par le sujet. Et le sujet ne réfléchit pas la même lumière suivant sa couleur, sa forme, suivant la nature, son aspect. Il va aussi calculer le contraste et puis la distance du sujet. Et toute la mesure de lumière réside dans l'interprétation. C'est, bon, alors j'ai vu que la scène, elle est un petit peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai un sujet, mais j'ai le soleil derrière, le sujet, il est un peu excentré, etc. Qu'est-ce que je vais proposer à mon utilisateur pour avoir la meilleure photo possible ? Et en fait, il va se référer à une base de données. En l'occurrence, par exemple, dans les réflexes Nikon, il a une base de 30 000 images de petites scénettes, et il va s'y référer. Et il va se dire, ben tiens, je pense que c'est une personne qui est en contre-jour, donc je vais lui proposer ce couple.
Vitesse dans diaphragme. Sa petite tête d'appareil, il essaye de reconnaître le sujet.
Exactement. Alors, pour reconnaître un sujet, c'est un peu compliqué. Et en fait, il a un petit capteur qui, multisegment, D80 par exemple, a 1005 zones d'analyse. Donc en fait, il va reconstituer une image avec 1005 zones. Ça ferait comme une image super pixelisée. Et de là, il va le comparer à une bibliothèque d'images.
Oui.
Il compare et il se dit, bah, ça doit être cette situation-là. Donc je propose cette mesure d'exposition-là.
Ce petit capteur, si j'ai bien compris, c'est quasiment, sauf qu'il est beaucoup plus faible définition, mais c'est la même chose que le capteur de l'image en final.
Exactement, avec un filtre rouge-vert-bleu devant. Exactement pareil que le capteur. Donc ça va, en plus, il va analyser la couleur. En plus, il s'est dit que ça y est, je sais faire la lumière, le contraste, je vais en plus analyser la couleur. Ça, c'est la mesure matricielle. Après, vous avez pondéré central. Ben, c'est toujours ce même capteur qui fait le même système d'analyse. Mais il va donner une prépondérance à la zone centrale. C'est-à-dire qu'il va analyser aussi tout ce qu'il y a sur les bords, mais il va se dire, le sujet qui est important, c'est celui qui est au centre, et je vais lui donner une importance particulière.
D'accord. Alors,
en fait, il va faire une moyenne. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous voulez faire un beau portrait. Votre visage est centré. si derrière les couleurs ou la nature n'est pas bien restituée, c'est pas ça votre importance. Votre importance, c'est que le visage, les blancs de l'œil soient blancs et les lèvres soient un peu roses, etc. C'est-à-dire que votre visage soit bien exposé. Donc lui, même si derrière il a des valeurs qui sont un petit peu différentes, il va se dire, bon, ça c'est pas très grave, c'est pas le but de l'image. Je me concentre sur le centre. Et puis finalement, vous avez le spot. Et là, il va plus se concentrer sur une zone centrale, il va se concentrer sur une toute petite zone qui équivaut à peu près à 2% du cadre total. Donc vraiment une toute petite zone. Si vous faites de la macro, finalement, c'est peut-être intéressant d'utiliser du spot. Ou si vous êtes dans du contre-jour, ou si vous voulez créer une ambiance avec un contraste particulier, le spot, vous allez donc mesurer que la zone qui vous intéresse. Alors ça peut être dangereux. Ça peut amener des photos ratées, puisque si vous mesurez sur une zone qui est trop blanche, lui, il va croire que c'est une zone un peu grise, et il va faire en sorte qu'elle soit grise. Donc, il faut se méfier à savoir où est-ce qu'on fait bien cette mesure-là. Mais finalement, c'est pas bien grave, on est en numérique, elle est ratée, on recommence. Donc, bien cerner l'endroit qui est à mesurer, c'est la seule chose.
Ok, donc là, on a bien compris les trois modes. Tu nous disais que ça n'a pas été mis sur le boîtier juste pour torturer les utilisateurs, mais que ça a vraiment une utilité. Donc concrètement, quand est-ce qu'on va quitter, je crois, la mesure qu'on utilise le plus souvent, c'est-à-dire la mesure matricielle?
La mesure matricielle. Alors, pour une sérénité parfaite quand vous êtes à l'extérieur, évidemment, prenez la mesure matricielle. Par contre, le pondéré central, utilisez-deux dès que vous faites des photos d'enfants, des photos de portraits, des photos de famille. En général, vous mettez le sujet au centre de votre image. Donc, ça sert à rien d'analyser tout ce qui se passe dans l'image si l'intérêt n'y est pas. Donc, dès que vous commencez à faire du portrait...
Un portrait serré, alors.
Voilà, un portrait un peu serré. Si vous aimez bien les natures mortes, etc., faut pas hésiter à rebasculer sur du pondéré central. Le pondéré central, ça a été la mesure la plus utilisée. Elle est extrêmement efficace dans 95% des cas. Donc, ne pas hésiter à le faire. La mesure spot, moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle... quand je fais des images, ce que j'aime beaucoup avec cette mesure spot, c'est que vous allez pouvoir jouer avec la lumière. Vraiment, c'est la mesure qui vous permet de jouer. Vous allez pouvoir créer des contrastes, c'est-à-dire vous faites un portrait. Si vous faites une mesure spot sur le blanc de l'œil, vous allez avoir tout le portrait qui va être très sombre ou alors très clair, suivant où vous faites votre mesure. Et ça va vous donner des dimensions un peu plus artistiques, un peu plus créatives.
Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples très concrets où toi tu t'en sers, puisque tu viens de dire que tu aimes bien t'en servir?
Alors, photo de ski.
Ouais.
Voilà, je vais à la montagne, c'est super. C'est le calvaire des photographes, la montagne. Donc de base, en général, on met la matricielle, parce que lui, il reconnaît bien les photos de montagne. Mais si, par exemple, moi, j'ai envie, la montagne, que derrière, elle soit cramée, ça me gêne pas, mais que je fais une focalisation sur le ski ou sur une paire de lunettes de soleil, etc., là, je vais utiliser cette mesure spot pour pas déstabiliser ma cellule de mon appareil avec tout ce qu'il y a autour, parce que justement c'est très compliqué pour lui autour, ça va totalement le déstabiliser. C'est ce genre de choses là où quand vous êtes dans des scènes de lumière compliquées que le spot est intéressant à utiliser.
Le piège, moi je trouve, quand on travaille en spot, c'est que comme il fait la mesure au centre, c'est pas toujours là où on veut mettre son sujet. Donc moi j'ai l'habitude de passer en manuel quand je travaille en spot, de régler mon exposition comme je veux et puis après de recadrer correctement. Comment est-ce que tu fais, toi?
Alors, il y a une fonction encore plus simple. Donc, vous mettez votre sujet en plein centre, vous faites la mesure de lumière en spot. Et puis, en général, juste sous le déclencheur, sur le dos de l'appareil, il y a un petit bouton qui s'appelle AE Lock, qu'on n'a pas souvent envie d'utiliser. Et bien, c'est le moment. C'est-à-dire que vous faites votre mesure de lumière, vous maintenez ce bouton appuyé, et en fait, il mémorise l'exposition. Et ensuite, vous décadrez pour être sur votre cadrage, celui que vous souhaitiez, tout simplement.
Tu choisis quoi, toi, dans la PASM?
Moi, je suis... En général, je suis souvent en S, parce que je fais beaucoup de photographies de sport. Donc, je veux une priorité, je veux une image figée, donc je suis souvent au millième de seconde, même plus, d'autant plus que maintenant, les sensibilités ISO sont assez bien gérées dans les réflexes. On peut aller jusqu'à 3200 sans bruit, notamment sur les D300 et D3, n'en parlons pas, 25600 ISO. Donc moi, je privilégie les vitesses courtes parce que mon sujet le demande. Dès que je fais des photos de paysage, Là, je prépare un grand voyage et j'ai déjà en projet toutes mes images. Il va y avoir des situations où je vais vouloir avoir une grande profondeur de champ, des photos nettes du début jusqu'à la fin. Et là, je me mettrai en mode A parce que je ne veux pas que l'appareil me propose un couple qui ne me voit pas. Je suis rarement en M parce que je fais des photos à l'instinct et je sors vite mon appareil et je ne veux pas prendre le temps de régler ma vitesse et mon diaphragme. Je préfère régler une fois pour toutes.
En début de session.
Et après, dès que je l'allume, c'est bon, il est calé et je shoote. Après, ça dépend des situations.
Et le mode P ?
Le mode P, moins. En fait, beaucoup moins.
Personne n'a l'air de s'en servir de ce pauvre mode P.
Je m'en sers pas parce que le pauvre appareil, lui, il sait pas dans quelle situation je suis. Donc, il va me proposer un 125e alors que je fais une photo de sport. Ça m'intéresse pas. Donc, s'il faut que je bouge la molette... Parce que je peux bouger la molette, il va bouger le couple. Mais moi, je n'ai pas le temps de faire ça. Je n'ai pas envie de prendre le temps de faire ça. C'est plus simple d'être en S ou en A.
Ok, continuons. Tant qu'on est en train de discuter des réglages sur le boîtier, il y a un autre type de réglage qui est utile, c'est la correction d'exposition. Qu'est-ce que ça fait, ça ?
Qu'est-ce que ça fait ? Alors ça, moi, je vous le conseille fortement, la correction d'exposition. Au départ, l'appareil vous propose une image avec une exposition dite la meilleure possible. Après, on se dit, moi je préfère les photos un peu plus claires. C'est-à-dire, c'est bien hein, ce qui me propose l'appareil photo, c'est joli, mais moi je préfère quand elles sont un peu plus claires. En fait, vous allez dire à l'appareil, écoute, quand tu me fais ton calcul, moi je veux toujours qu'elle soit surexposée d'un tiers de diaph, d'un demi-diaph, voire d'un diaph. Et donc à chaque fois, il va faire son calcul du couple parfait et il va surexposer un petit peu. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Pour moi, ça va donner une dimension un petit peu plus personnelle à vos images. C'est-à-dire que ça va prendre en considération ce que vous aimez. Si vous aimez les images un peu plus foncées, vous lui demandez de sous-exposer à chaque fois. En l'occurrence, je les préfère un peu plus claires, je trouve ça plus lumineux, etc.
Puis chez vous, les boîtiers, je trouve, sont réglés...
Avec une densité
un peu forte.
Un peu forte, sachant que c'est plus facile de retravailler quand vous avez toutes les infos.
C'est pour éviter de percer les lumières.
Voilà, vous avez toutes les infos, donc vous pourrez l'éclairer. Après, sur tous les logiciels, vous pouvez la rendre plus claire.
Il n'y a pas longtemps, j'ai fait les 24 heures du Mans, et puisque j'ai un réflexe Nikon, il est évidemment réglé en permanence en surex. Et là, on avait des voitures qui étaient très très blanches et que le soleil, ça réverbérait très fort. Et là, je me suis fait piéger. Là, on comprend pourquoi vous réglez une densité un peu forte, parce qu'effectivement, ils ont percé, les blancs. Donc, quand on règle une petite surex, il faut garder en tête que quand on est sur des sujets très blancs, il faut peut-être... récompenser.
La correction d'exposition, il faut aussi prendre en considération ce que vous êtes en train de photographier. Et une petite règle de base, c'est dès que vous avez des choses un peu métalliques, de la carrosserie, des bijoux, etc., surexposer, ça va créer un reflet dans ces objets métalliques. Donc quand vous êtes avec des objets métalliques dans votre cadrage, peut-être éviter la correction d'exposition dans ce sens-là, en tout cas.
Comme tu dis, on est par rapport à ses sujets de prédilection, on est par rapport à ses habitudes, donc on met en finale le réglage par rapport à ce sur quoi on travaille habituellement.
Voilà, exactement.
Et il faut trouver, personnaliser son appareil, en fait.
Voilà, c'est toute la dimension de la correction d'exposition va vous permettre de personnaliser vos images, et ça, c'est important. Alors, pour pouvoir faire cette correction d'exposition, parce que vous savez peut-être pas forcément si vous préférez plus clair, moins clair, etc., moi, je vous conseille de tenter le bracketing, pour savoir ce que vous aimez, en fait. Donc, le bracketing, l'appareil photo va faire une photo, bien exposée, et d'autres photos, surexposées et sous-exposées du même sujet. Vous déclenchez, et il va vous proposer 4, 5 ou 6 images. Et en fait, dans ces 6 images-là, vous allez pouvoir faire votre choix. Est-ce que je préfère quand c'est surexposé ou sous-exposé ? Le bracketing va vous aider à savoir ce qui vous plaît. Alors, ça peut être dans des techniques, en studio, etc. C'est hyper important d'avoir des images un peu plus surexposées, un peu plus sous-exposées. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. Moi, je vous propose le bracketing comme un outil pour vous aider à savoir ce que vous aimez dans les images. Voilà, ce serait déjà bien. C'est déjà bien de l'utiliser comme ça.
Moi, à peu près tous les gens que j'ai rencontrés ont une correction en permanence sur leur boîtier. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi.
Moi, c'est mon cas, ouais.
Est-ce que c'est fréquent d'utiliser cette correction d'exposition ?
Ah, c'est même plus que fréquent. Quand un photographe pro amène son appareil photo, vous pouvez être sûr que ces corrections d'exposition sont déjà enregistrées dans le boîtier. En fait, il a personnalisé son appareil. Et si vous empruntez un réflexe à un professionnel, les images que vous allez avoir vont vous sembler peut-être très étranges parce que ce sont les images qu'il souhaite avoir. Donc cette correction d'exposition, c'est juste mettre un peu de vous-même dans le boîtier en disant « moi, je les aime comme ça ou comme ça ». Et ça devient votre boîtier personnel. Ce n'est plus un réflexe, c'est votre réflexe.
Historiquement, les premiers appareils qui avaient une mesure étaient plutôt avec une mesure centrale pondérée. Mm-hmm. La mesure matricielle, ça date de quand ?
La mesure matricielle, en l'occurrence, c'est un capteur CCD, donc c'est assez récent. On n'avait évidemment pas ces boîtiers-là sur des FM et autres.
Pas ça sur les FM, tout à l'heure.
Absolument pas. Donc c'est vrai que c'est récent parce que la technologie en fait d'analyse est récente.
Comment est-ce que ça a évolué, ces capteurs ?
On avait la mesure de la lumière, du contraste. En ajoutant un filtre RVB sur ce capteur, ça y est, on a pu enfin aussi analyser la couleur. Pourquoi c'est important d'analyser la couleur ? Balance des blancs automatique. Comment l'appareil photo sait quelle balance des blancs il faut mettre ? Eh bien, c'est toujours ce même petit capteur-là. Donc, cette mesure matricielle est importante pour plein d'autres paramètres. Et ce capteur, ce pose-mètre à l'intérieur de votre boîtier, est aussi là pour votre balance des blancs. La balance des blancs automatique, en reconnaissant aussi tous ces sujets, il va avoir une autre fonction. Vu qu'il sait que votre sujet est un peu à droite ou un peu à gauche, il va aider l'autofocus pour faire sa mise au point, en lui disant « c'est par ici qu'il faut aller ».
Ah oui, quand il compare avec la base d'image, il dit « tiens, c'est un portrait à gauche devant des feuilles, puisque le fond est vert, puisqu'il reconnaît la couleur ». Enfin, voilà. J'essaye de comprendre.
Exactement.
Hein. Et comme il se dit « tiens, c'est vert, ça doit être le feuillage, c'est pas ça, là c'est en chair, ça doit être le sujet, c'est ça », ça permet aussi du coup de...
D'aider l'autofocus à
ça
faire...
Ça ressemble un peu à ce qu'on trouve sur les compacts avec la détection de visage et ce genre de choses.
Voilà, c'est un peu dans cette lignée-là. Donc ça aide vraiment différents paramètres de votre boîtier. Pour revenir sur la balance des blancs, pour que ce soit bien clair, deux situations. Vous avez des fleurs qui sont dans un jardin, donc la photo est quand même très verte. Et puis vous photographiez quelqu'un dans le métro. Donc la lumière, c'est une lumière particulière dans le métro qui en général donne des images un peu verdâtres. Je ne sais pas si vous connaissez les films de Jean-Pierre Jeunet, mais souvent il y a cette sensation un peu de lumière verte dans les films. Donc le boîtier, lui, s'il a l'impression que l'herbe verte, en fait c'est juste parce que la balance des blancs n'est pas bien faite, bah vous allez vous retrouver avec une herbe grise ou une herbe un peu blanchâtre. Donc c'est pour ça que c'est important pour lui de bien reconnaître ce qui se passe et de savoir si c'est des feuilles et de l'herbe ou si c'est un patineur ou si c'est une personne dans le métro. Donc c'est ça qui est vraiment un peu magique parce que la mesure de lumière, c'est reprendre des informations techniques, mais c'est surtout l'interprétation. Mais la cellule qui est dans votre appareil photo aura compris que c'est quelqu'un dans le métro ou c'est une fleur en plein milieu d'un pâturage.
Là, tu es plutôt sur les boîtiers qui ont le capteur à 1005. Point, les gammes style D60, D40 ont des capteurs plus simplifiés, je crois.
Ils ont des capteurs avec moins de pixels, mais le système fondamental fonctionne de la même manière. Donc effectivement, il sera moins fin sur la reconnaissance de scène, c'est-à-dire qu'évidemment, il a moins d'informations, mais malgré tout, il saura reconnaître si c'est une personne dans un pâturage, ou si c'est une montagne, ou si il saura si c'est le ciel qui est en haut, la mer en bas, il vous fera la bonne exposition. Donc dans la majeure partie des situations, il reconnaîtra la scène.
En pensant au ciel en haut, mais en bas, j'ai du mal à imaginer comment ça pourrait être autrement.
Sur le côté, en fait.
Quand oui, oh, joli, oui.
Quand vous êtes en vertical, suivant comment vous prenez votre appareil, il y en a qui prennent avec le poignet en bas et il y en a qui mettent le poignet en haut. Donc vous n'avez pas la même prise en main de votre boîtier, il faut quand même le reconnaître, le ciel et la mer.
Ça peut être sur les côtés ou, voilà, ou en bas du capteur, d'accord.
Exactement, c'est important. D'accord. Et lui, il le sait.
D'accord. Avec l'arrivée des systèmes numériques, les mesures de flash ont complètement été revues. Chez tous les fabricants d'ailleurs. Et si j'ai bien compris, de plus en plus, on s'oriente vers utiliser le même capteur d'éclairage pour faire la mesure du flash. Est-ce que c'est correct ?
C'est tout à fait correct, puisque effectivement, le but étant d'avoir la meilleure mesure de lumière à travers l'optique que vous utilisez, puisqu'on est dans une configuration globale, un flash, un appareil, une optique. Quand vous êtes en mode flash auto, il faut bien qu'il sache ce qu'il faut qu'il fasse. Je le déclenche, je le déclenche pas. Pourquoi il le déclencherait et pourquoi il le déclencherait pas ? Il le déclenche, par exemple, parce qu'il sait que vous êtes en contre-jour. On y va, coup de flash. Il le sait parce qu'il a analysé l'image. Qui sait que c'est une personne qui est en contre-jour ? Qui sait que vous êtes un peu loin ou pas trop loin ? Et donc, il va dire, bah tiens, moi je connais cette image. Et ben dans ces cas-là, il faut déclencher le flash. Et c'est ce fameux capteur qui est là et qui est tellement performant, autant l'utiliser. Ça sert à rien d'en rajouter un deuxième.
J'ai jamais osé laisser mon appareil déclencher le flash tout seul.
Le mode flash auto fonctionne. Évidemment, quand on aime un peu utiliser son autre flash, si vous avez la chance d'avoir un flash à rajouter sur votre appareil, on aime aussi s'amuser avec son flash parce qu'on peut faire un certain nombre de choses, du fill-in, etc., ce qu'on appelle fill-in, donc déboucher les ombres. Mais ça, vous pouvez le faire avec votre flash embarqué.
C'est même, à mon avis, la seule utilisation du flash embarqué, c'est pour le fill-in.
C'est pour le fill-in. Alors, c'est vrai que j'aimerais revenir là-dessus parce que souvent, on me prend un peu pour une folle quand je déclenche mon flash en plein jour.
Oui, mais alors moi j'ai expliqué ça à tous les membres de ma famille, il n'y a plus personne qui se moque de moi maintenant.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller de faire et qui vont vraiment, ça va changer vos images, un petit coup de flash et tout est transformé. C'est un petit peu ça l'idée. Vous êtes en extérieur, vous faites une photo, je sais pas, de votre enfant qui s'amuse dehors et qui a la tête un peu penchée, qui joue avec des cubes, etc. Le petit coup de flash va permettre de lui illuminer un peu le visage, c'est-à-dire de déboucher les ombres, d'enlever en fait l'ombre de son menton, par exemple. C'est très léger, mais ça change votre image. Donc vous avez une option où vous forcez le flash, vous faites votre image et le flash va se déclencher. Donc à utiliser même en plein jour et au contraire, à utiliser surtout en plein jour.
Et si vous voulez plus de détails, on avait discuté de ça à l'été 2006, je crois. On a un épisode qui va un peu plus en détail là-dedans. Bon, ben, je crois qu'on a pas mal fait le tour de la question, là. Est-ce qu'il nous reste des choses à dire ?
Ben, non, j'ai l'impression qu'on a expliqué les trois mesures qu'il y a sur votre appareil. Moi, ce que j'ai vraiment envie de faire passer, que vous essayez ces ensembles de mesures. C'est pas des options en plus. La lumière, c'est le paramètre important dans votre image. Toutes vos images vont changer d'ambiance, ça va être plus intimiste, etc. Si vous vous amusez avec les mesures de lumière, le matriciel 3D, c'est super, mais n'hésitez pas à changer et à voir ce que vous pouvez faire d'autre pour pouvoir modeler, créer, changer un petit peu votre vision, la vision de la lumière que vous avez. C'est vraiment le mot d'ordre. C'est pas compliqué. C'est pas, oulala, c'est trop compliqué, je vais pas m'en sortir. On change la molette, on la met sur l'autre bouton, puis on regarde ce qui se passe. Et je pense vraiment que vous allez pouvoir vous amuser, vous enthousiasmer avec ces trois options-là.
Ok, bah écoute, Delphine, merci de tout ce temps que tu nous as consacré.
Merci à toi, c'était un vrai plaisir.
Ben, à bientôt.
À bientôt.
Troisième segment avec vos commentaires et vos réactions. Tout d'abord, les messages d'encouragement reçus de Gérald, B. Mallory, Développement Photo, Alexis 44600, Antoine et Adrien. Merci à vous. L'épisode sur les flashs du studio a suscité beaucoup de commentaires, je veux dire que je m'y attendais, en particulier sur cette comparaison entre le flash de reportage et le flash de studio. Et des commentaires de Gaps, Scalvi, Benjamin Bay, Transep, David, Pegomas et Defecto. Je vais répondre globalement et sur deux points. D'abord, comme le dit Transept, il n'y a pas dans l'absolu de bonne ou de mauvaise solution. La solution adaptée dépend des besoins. Et il faut choisir le matériel adapté à ses besoins. C'est un peu un des idéaux de déclencheur en matière de choix de matériel, dire qu'il n'y a pas de bon matériel dans l'absolu, il y a des matériels qui répondent à des besoins. Et le but de ce sujet, ça a été de vous présenter, par rapport à du matériel qui est déjà fort connu, du matériel qui est assez nouveau et qui, et vos commentaires me confirment dans cette impression, reste globalement mal connu. Parce que pour faire le meilleur choix, il faut connaître ses besoins, bien sûr, mais il faut aussi connaître les alternatives. Deuxièmement, vous avez été nombreux à réagir en me disant en substance « Mais Benoît, tu n'as rien compris, va voir Strobiste, tu verras qu'on peut faire des choses magnifiques avec des flashs de reportage. » La technique des flashs de reportage pour des photos posées type studio, c'est pas quelque chose qui est nouveau. J'ai dans ma bibliothèque un livre des années 80 qui présente exactement la même technique. Donc, et je ne médie absolument pas de Strobiste en disant ça, c'est un blog qui est bien fait, d'ailleurs que je lis avec beaucoup de plaisir, mais il n'a rien inventé, c'est une technique qui est absolument pas nouvelle. Si vous vous souvenez de l'interview avec Henri Rossier, il nous a expliqué comment, déjà dans les années 70 ou dans les années 80, je ne sais plus, il utilisait la même technique quand il partait en déplacement, parce que les flashs de reportage, effectivement, sont moins encombrants que les flashs de studio. Donc ces techniques, elles sont pas nouvelles, je la connais très bien, Christophe Essang les connaissait très bien également. On ne s'est pas étendu dessus justement parce qu'elles ne sont pas nouvelles et parce qu'on les avait déjà couvertes sur déclencheur avec Henri Rossier. Ce sur quoi on s'est étendu, c'est sur ce qui est vraiment une nouveauté. La baisse phénoménale de coûts sur le matériel du studio. Comme la plupart d'entre vous qui avez laissé ces commentaires, j'ai commencé dans les photos posées au flash avec des flashs de reportage, en détournant des boîtes à lumière, parce qu'à l'époque, de toute façon, les flashs du studio étaient inaccessibles, donc c'était la seule option disponible pour un amateur. Et puis ça a changé. Et c'est ça qu'on a voulu vous dire dans le sujet. Donc, il ne s'agit absolument pas de dire si vous avez une technique qui fonctionne que vous devez l'abandonner. Si j'ai donné cette impression-là, je m'en excuse parce que ce n'était pas le but de l'épisode, évidemment. C'est simplement de vous dire, ouvrons les horizons, prenons conscience du fait qu'à côté de cette technique qui, je le rappelle, n'est pas nouvelle, il y a par contre un développement technique nouveau. Et ensuite, c'est à chacun de prendre position en fonction de ses besoins, de ses goûts et de ses attentes. Sur le même épisode, Bastien 33 référence une association parisienne pour s'initier aux techniques de flash de studio. Quant à Adrien, il est surpris d'apprendre qu'une boîte à lumière se monte sur un flash. Il croyait que la boîte à lumière est en fait une espèce de mini-studio. Alors Adrien, je crois que tu confonds boîte à lumière et les tentes qu'on utilise aussi en studio. La boîte à lumière, ce sont ces grandes sources lumineuses qu'on voit dans les studios. Généralement, elles sont gainées de noir sur l'extérieur. Il y a un grand diffuseur blanc sur l'avant, par lequel la lumière passe d'ailleurs. L'avantage de la boîte à lumière, c'est qu'elle donne une lumière très douce, parce que la source lumineuse est grande, et plutôt directionnelle, c'est-à-dire bien contrôlée. Sur l'épisode des trois techniques de HDR, différentes discussions auxquelles je veux répondre, la première, je dois l'avouer, m'a fait beaucoup sourire sur toutes les critiques concernant le titre. Elle m'a fait sourire parce que mes éditeurs se sont toujours plaints des titres que je proposais quand je rentrais un article, et je m'amuse de constater que ça n'a pas changé. Timothée fait une remarque très juste. Il ne suffit pas, dit-il, d'inclure dans les notes de l'épisode un lien vers un ancien épisode traitant du HDR. Il aurait fallu définir le mot HDR, le concept du HDR dans l'épisode lui-même. Tout à fait correct, Timothée, c'est noté. Gaps attire notre attention sur le fait que les photos du livre sont décevantes quand on regarde le livre. Et c'est vrai que pour écrire la préface, j'avais travaillé avec les fichiers. Il y a une différence assez importante. Je suppose qu'elle est liée à l'impression quadri. On sait qu'elle n'a pas une dynamique très grande. Or, même après le tone mapping, on a encore beaucoup de dynamique dans ces images. Quant à Mr. Saul et Shani, ils plaident pour une meilleure organisation de l'information de l'ensemble des épisodes. La logique de déclencheur, quand j'ai lancé, était de faire un magazine. C'est-à-dire pas quelque chose qu'on allait consulter comme, entre guillemets, une encyclopédie sur laquelle on allait revenir, mais un document qui avait une temporalité. Il est exact qu'on gagnerait à pouvoir remettre la navigation à plat et réorganiser tout cela. S'il y a parmi vous un bibliothécaire volontaire pour faire ce travail, qu'il soit bibliothécaire professionnel ou amateur d'ailleurs, eh bien qu'il se manifeste. Sur l'épisode Exposition Flash, Lightroom Rec, qui a acheté l'épisode, l'apprécie, lui a permis d'asseoir ses connaissances et d'aller plus loin. En particulier, l'application astucieuse de la loi du carré inverse de la distance pour l'éclairage entre le sujet et le fond. Lightroom Rec rajoute d'ailleurs une analogie éclairante avec la profondeur de champ. Baguio, qui a également acheté l'épisode, l'apprécie tout autant, mais contrairement à Lightroom Rec, il a été surpris par le prix. Ce qui me permet de vous renvoyer vers une discussion plus générale sur ce qui se passe avec Déclencheur. Cette discussion, elle a lieu sur Carnet, parce que toute l'information est sur Carnet. Il y a un certain nombre de notes de fond sur pourquoi payant, pourquoi la pub, pourquoi le prix, etc. etc. Je veux quand même vous rappeler que le but des trois épisodes qui sont proposés maintenant, c'est de finaliser la formule, et donc on va faire varier un certain nombre de paramètres, dont le prix. Le seul paramètre qui ne varie pas, c'est le soin apporté à la production du podcast. Dans les épisodes plus anciens, sur l'épisode signature du tirage, une discussion entre Le Béret et Siouxset sur l'utilisation de script pour signer les galeries en ligne. Sur l'épisode choisir son logiciel de traitement RAW, donc la rencontre avec Volker Gilbert, Lancourt regrette qu'après avoir écouté l'épisode, il ne sait toujours pas quel logiciel choisir. C'est un de ces épisodes qui est assez daté. Les questions qu'on se posait à l'époque, je crois qu'elles sont largement résolues aujourd'hui, et donc je peux comprendre qu'effectivement on ne se pose plus les mêmes questions aujourd'hui que ce qu'on se posait à ce moment-là. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous à Déclencheur pour être certain de ne rater aucun épisode à l'avenir. L'abonnement est gratuit. Ça signifie simplement que vous êtes averti de la sortie des nouveaux épisodes. Tous les renseignements pour s'abonner sont sur le blog www.déclencheur.com. Je vous rappelle également que Déclencheur, c'est plusieurs blogs aujourd'hui. Donc vous avez le blog du podcast que vous connaissez puisque vous êtes en train d'écouter le podcast maintenant. Mais à côté de ça, il y a le blog Carnet qui vous ouvre les coulisses de Déclencheur sur lesquelles on a plein de discussions photographiques également. Donc je vous dis à bientôt sur www.déclencheur.com.